Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui les amis, j'ai le plaisir d'être d'accueillir Guillaume Santracchio, Pierre-Emmanuel Hutto du podcast Dans la tête d'un coureur. Tu connais pas Dans la tête d'un coureur. Comment c'est possible? Parce qu'avec 280 000 téléchargements mensuels, c'est aujourd'hui le premier podcast natif de sport en France. Salut Guillaume, salut Pierre-Emmanuel, merci d'être passé nous voir dans le Super Daily. Est-ce que vous allez bien?
Super Thibaut, comment ça va toi?
Moi ça me va très bien, est-ce qu'il y a encore de la boue dans les chaussettes? Parce que je crois que ce week-end vous étiez très occupé.
Il y a de la boue sur le fond des chaussures, donc il doit y en avoir dans le sac, mais sur les chaussettes ça va.
Ouais ça va, on a réussi à dormir un petit peu avant de venir, donc on devrait pas trop bailler pendant l'émission.
Puisque nos amis étaient à la Saint-Élion, hein, Saint-Élion, course mythique de la région lyonnaise, hein, pour les Lyonnais qui nous écoutent, ou les Stéphanois qui nous écoutent, une course qui relie Saint-Étienne à Lyon, course de nuit. Mmh.
Sous
la pluie,
sous la neige, souvent.
Ouais.
7000 coureurs. Et justement, cette année, on s'est dit, le trail, peut-être les auditeurs et auditrices qui connaissent pas forcément le monde du running, le trail, c'est plutôt rattaché à des paysages oniriques. Tu vois les grands espaces, le Mont Blanc, la diagonale des foules, l'île de la Réunion. Bon, une course de nuit entre Saint-Étienne et Lyon dans le froid.
Ça fait moins rêver.
Sur le papier, ça fait moins rêver. Et pourtant, c'est le trail le plus populaire de France. Donc, pour nous, on comprenait pas, tu vois, comment est-ce qu'on peut aimer cette course-là. Et on s'est dit, on va partir en reportage, justement, pour percer le secret de la Saint-Élion. C'était un peu l'angle édito pour savoir, voilà, qu'est-ce qui plaît autant à ces coureurs. Et on n'a pas trouvé.
On n'a pas compris.
On plaisante, on dit ça sur le ton de l'humour, parce que c'est une course magnifique, elle est très vieille. Je crois que c'est l'une des plus vieilles courses de France. C'est le dépassement de soi, évidemment. Je pense que c'est ce que viennent chercher les trailers avant les paysages, finalement. C'est de se défier soi-même et c'est ce qui compte le plus. Donc, tu vois, là, ça prouve bien que le trail, c'est pas seulement du tourisme un peu sportif. Non, c'est vraiment une aventure humaine, c'est le dépassement de soi.
Une culture. On parlait de ça, de ces communautés de runners, de ces communautés de trailers, hein, qui ont vraiment, il y a vraiment une notion de culture très forte autour de ces femmes et ces hommes qui sont prêts effectivement à se taper 70 bornes de nuit à la frontale, les pieds dans la boue. Du coup, je le disais, hein, Guillaume, Pierre-Emmanuel, voilà, dans la tête d'un coureur, c'est un mastodonte, hein, mine de rien, les amis, et 280 000 téléchargements mensuels, c'est énorme. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver devant les acteurs majeurs comme l'équipe Eurosport, RMC? Comment on sent?
C'est sûr que ça fait plaisir. Après, le podcast, pour nous, c'est au cœur des écosystèmes qu'on produit. Donc, c'est le podcast, c'est des écosystèmes médias qu'on produit et qui vont venir nourrir et qui vont venir se servir du podcast pour créer d'autres contenus. Et dans la tête d'un coureur, c'est une des productions de Sunday Night Productions, du coup, qu'on a confondé avec Guillaume et qui se spécialise vraiment sur les contenus sport, digitaux sport.
Très bien. Sunday Night Productions, on peut en parler rapidement. Alors, qui fait quoi ici? J'ai deux garçons devant moi. Il y a Guillaume, il y a Pierre-Emmanuel. Racontez-moi.
Ouais, c'est un peu le succès aussi de Sunday Night Productions. Donc, dans la tête d'un coureur, t'en parlais, c'est un peu le vaisseau amiral, mais on est aussi dans la tête d'un cycliste mordu, dans la tête d'un triathlète. Tu vois, on essaye justement d'avoir maintenant tout un écosystème autour du sport. Et je pense une des recettes, c'est qu'on a su allier le monde du digital, du social, avec le monde plutôt édito. Donc, moi, je vais m'occuper de la partie du côté rédactionnel, trouver les angles, raconter les histoires aussi autour du sport.
Donc toi Guillaume, t'es plutôt l'homme derrière le micro, hein,
si exactement, ouais, derrière le micro et derrière les scripts aussi, enfin voilà, tous les partis pris édito qu'on peut avoir. Nous on s'intéresse pas forcément au sport en tant que dimension sportive, donc on va pas... Tu parlais de Eurosport, tu parlais de l'équipe. C'est vrai que eux, ils se sont créés, on va dire, dans les années 70, un peu plus tard pour Eurosport, mais voilà, l'équipe RMC, c'est quand même des vieilles maisons. Et à cette époque, en 1970, qui faisait du sport? Seulement les enfants et les athlètes de haut niveau. Je veux dire, il n'y avait pas une culture sportive, non. Et donc, on consommait le sport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux lire l'équipe, mais pas du tout être sportif de base. Sauf que, aujourd'hui, il y a les questions de la santé, il y a les questions, tu vois, de se sentir bien dans son corps, toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, on pratique le sport. Et il n'y a pas forcément de médias aujourd'hui qui s'adressaient à ceux qui...
Aux pratiquants, tu veux dire.
Du sport, voilà, exactement. Et à ceux aussi qui veulent vivre le sport à travers les émotions, à travers l'histoire, et qui veulent surtout connaître l'histoire d'un athlète, qu'est-ce qui le motive, et puis comment est-ce qu'il peut apprendre de ces athlètes-là. Et donc, nous, on a tout de suite voulu s'intéresser aux bienfaits du sport. Qu'est-ce que finalement le sport nous apporte, l'histoire aussi de la vie derrière les sportifs, les défis aussi. Quelquefois, on commence le sport parce qu'on a pris un peu de poids, parce qu'on a vécu un divorce, parce qu'il y a plein de choses qui te mettent à découvrir le sport. Il y a vraiment une histoire derrière chaque sportif et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans la tête d'un coureur. Et du coup, on ne se compare pas vraiment à l'équipe et RMC parce que ce n'est pas le même parti pris édito. Et donc voilà, on est complémentaires.
Donc toi Guillaume, t'es derrière la caméra, derrière l'éditorial on va dire, et toi Pierre-Emmanuel, c'est plutôt la partie digitalisation, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est tous les sujets hors édito, donc la diffusion, la monétisation, la gestion de la société, parce qu'on est quand même 5 à temps plein maintenant.
Okay.
Et donc tous ces sujets, faire en sorte que les beaux contenus que Guillaume produit soient écoutés et nous rapportent un peu d'argent pour permettre d'en construire d'autres.
C'est le binôme gagnant. Si je dis pas de bêtises, le premier épisode de Dans la tête d'un coureur, c'est janvier 2019, c'est ça?
Décembre 2018, je crois.
Ouais, c'est ça.
Décembre
ouais.
2018.
7 décembre, bientôt. C'est presque l'anniversaire.
Je crois, ouais, c'est
on est
5.
Le 5.
Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement la genèse de cette aventure, hein, parce que maintenant, ça fait quelques années quand même que vous êtes de la partie et que vous êtes devenu maintenant une référence au milieu de cette niche de contenu. C'est quoi la genèse? D'où ça part tout ça?
Un peu comme toi, parce que je crois que tu fais partie un peu des précurseurs sur le podcast. Non, moi, j'écoutais pas mal de podcasts anglo-saxons. J'écoutais pas mal de podcasts aussi français qui me plaisaient. Alors, à l'époque, il y avait très, très peu de contenu. Je te parle de ça, c'est 2016-2017. J'étais pratiquant de course à pied. Donc, quand tu cours, tu peux pas regarder une vidéo YouTube, tu peux pas lire. Donc, finalement, t'as peu de choix en médias. Tu vas écouter de la musique généralement. Quand tu cours beaucoup, t'en as un peu marre des fois de ta playlist, t'as envie de changer. Et du coup, j'ai écouté pas mal de podcasts entrepreneuriaux sur ça. Et puis, je me suis dit, comme souvent, dans le processus de création, ça vient d'un manque. Tu n'as pas quelque chose, t'es un peu frustré que ça n'existe pas, donc tu le crées toi-même. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être pas mal de créer un podcast autour de la course à pied. Parce que nous, les coureurs, quand on se revoit et qu'on court tous ensemble, on parle de quoi? On parle de running, hein, tu vois, c'est un peu le truc. Donc, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien créer une émission avec deux mecs, un entraîneur et un coureur qui parle course à pied, mais sur le format un peu conversationnel, comme il y avait sur le podcast. Et ce que j'aimais par rapport au podcast anglo-saxon, c'était ce côté, tu sais, très bon enfant, où les mecs, ils vont parler d'un sujet tech ou économie ou marketing avec une bière ou un chocolat chaud, tu vois, comme dans le salon. Et donc, tu vois, très détendu et avec ils parlent très simplement dans les mots du quotidien. Et techniquement, pourtant, ils sont hyper balèzes. Ils connaissent, ils sont hyper pointus. Mais t'as pas, t'as ce côté un peu l'anglo-saxon, quoi. Très détendu, très pote. Mais finalement, dès que tu rentres dans le fond, les mecs, tu te rends compte qu'ils sont très, très pointus. Et ils arrivent bien à vulgariser. Donc, c'est ce qu'on voulait créer, une ambiance, tu vois, très détendue, bande de potes. Mais quand on rentre dans les sujets, on sait de quoi on parle. Donc, je me suis rapproché d'un entraîneur à l'époque qui était Fred. Et puis moi, à côté de ça, je bossais dans les médias aussi. Hein, donc voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment d'ambition d'en vivre. C'était vraiment juste l'idée de créer une émission autour de ma passion, mais faire ça à côté, je pensais pas du tout arrêter mon travail, j'étais très heureux dans mon boulot. Et en fait, le podcast a très très bien marché pour l'époque. Donc pour l'époque, on a fait à l'époque un podcast qui faisait 30 000 téléchargements par mois, c'était vraiment un gros gros podcast.
Carrément,
à l'époque.
Ouais.
Et au bout de 3 mois, en fait, comme il y avait un manque, les coureurs, ils ont du temps aussi quand ils courent. Et après, PE parlera de toutes les réseaux sociaux qu'on a su développer aussi. Très très vite, parce que c'est l'enjeu, hein, c'est faire connaître son podcast. Et du coup, au bout de 3 mois, on a un annonceur, donc Nike, pour ne pas le citer, qui nous a contacté sur Instagram pour nous dire: salut les gars, on a vu ce que vous faites, c'est sympa.
Ça commence bien quand ton premier annonceur c'est Nike, t'es déjà pas si mal parti.
C'est un bon signe.
C'est un bon signe, et puis c'est vrai qu'ils travaillent très peu en médias, ils quasiment pas, et c'est des gens qui n'utilisent pas très peu de médias, donc quand ils le font, c'est qu'il y a vraiment un intérêt. Et eux, ils avaient un peu un objectif, c'était de s'adresser aux coureurs quand ils pratiquent. Parce que c'est vrai, quand tu parles de chaussures, un mec quand il est en train de courir, c'est top. Et du coup, on a fait notre toute première OP avec eux, et c'est là où les ennuis ont commencé.
Parce que là on est bien d'accord tous les deux, c'est votre full time job, vous êtes podcasteur, ou plutôt on va en reparler après, à la tête d'un média, concrètement. PE, toi, donc, t'es davantage sur la partie de digitalisation. Pareil, comment est-ce que tu t'es retrouvé embarqué sur ce projet?
Alors, c'est Guillaume, on travaillait chez Hopscotch avant, qui est une agence de digital, événementiel et PR à Paris. On était tous les deux passionnés de course à pied. Je pense qu'on était les deux seuls de l'agence à courir. En tout cas, on était les seuls à en parler. Moi, j'avais monté entre-temps une autre boîte. Quand Guillaume est parti chez Altice, moi, je suis parti de chez Hopscotch. J'ai créé une première boîte dans le RH qui a pas trop bien marché, mais j'ai appris plein de trucs. Et un été, Guillaume est revenu me voir en me disant, voilà, j'ai des idées. Qu'est-ce que tu penses de faire un podcast? Moi, j'écoutais aussi déjà beaucoup de podcasts à l'époque. Donc, je me suis dit, vas-y, on y va à fond. Il a commencé à m'envoyer des maquettes, envoyer des trucs. Et puis, de fil en aiguille, on s'est mis à produire le truc. C'était vraiment le side project à l'époque. Hein. C'était vraiment, on était tous les deux sur nos trucs. Et effectivement, cet événement avec Nike nous a mis la puce à l'oreille en disant, bon, en fait, il y a vraiment un marché. On a tous les deux quitté. On s'est tous les deux mis à fond. Et du coup, ouais, moi, je gère plutôt les réseaux sociaux parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que le podcast était cool, mais que pour qu'il soit découvert, qu'il soit écouté, on pouvait pas se contenter d'attendre que les algorithmes de Spotify ou d'Apple nous mettent en avant, parce que c'est pas forcément comme ça que ça marche.
Ils en ont pas. Enfin, ils en avaient pas à l'époque.
C'est pas comme ça que ça marche. Donc on s'est dit tout de suite que si on créait un podcast, fallait qu'on crée un écosystème média autour qui soit puissant et qui vive vraiment en vase communicant entre les plateformes. Donc on a tout de suite créé un site internet, on a tout de suite créé des réseaux sociaux, on a tout de suite créé une newsletter. Et au final, maintenant, c'est plein de points de contact. On s'adapte à tous les usages de consommation de nos auditeurs. Et on va leur apporter du contenu intéressant sur toutes les plateformes. Donc, que ça soit sur le social avec du court, sur le web avec du plus long. Donc, on va encapsuler nos podcasts, on va rajouter du texte, on va rajouter des liens externes, on va rajouter de la vidéo. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que les gens qui nous écoutent, ils avaient envie de valider ce qu'ils avaient compris. Parce qu'ils écoutent en faisant du sport, ils écoutent en mobilité. Et ils ont besoin d'avoir un deuxième degré de lecture, de comprendre ce qu'ils ont écouté. Et le site internet intervient à ce niveau-là pour apporter ce deuxième niveau, apporter de l'info supplémentaire et valider en fait tout ce qu'ils ont compris. Et après la newsletter pour apporter des contenus aussi un peu plus externes. Et au final, c'est un vaste communicant parce qu'on voit que les gens qui se mettent à écouter sur le podcast, ils vont aller sur le site internet, ils vont aller sur le social, et les gens qui nous découvrent sur le social, ils vont aller sur le podcast et sur le site. Et au final, tout fonctionne ensemble et tout fonctionne très bien.
Ouais, ça c'est intéressant. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, allez l'écouter. Au moins, même si vous n'êtes pas coureur, je dirais, rien que pour se rendre compte du travail qui est fait sur l'éditorialisation de ce podcast, je trouve que messieurs ou Guillaume, si c'est ton taf, vous faites un très bon boulot là-dessus. Vous proposez aujourd'hui des épisodes de différentes durées. Ça m'intéresse parce que nous, qui produisons aussi ici du podcast, on a plutôt une lecture aujourd'hui, et notamment dans le Super Daily, qui est un format unique de 17-20 minutes, adapté à un usage. Et vous avez pris un angle un petit peu différent. Il va y avoir des chroniques qui vont durer une dizaine de minutes. Il va y avoir des émissions plus poussées, notamment des interviews qui vont durer 1h30. Est-ce que toi, Guillaume, tu as le sentiment qu'il y a une durée qui marche mieux qu'une autre sur le podcast, ou est-ce que justement c'est l'imbrication de ces différents formats qui permet d'avoir une présence podcast solide?
Alors ça a été pas mal théorisé. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites, et ce que moi on m'a recommandé quand j'ai commencé, et c'est ce qu'on recommande souvent aux gens quand ils sont sur podcast, c'est entre 27 et 30 minutes. Voilà, parce qu'en fait on a pris la moyenne des podcasts et on a vu que ça marchait comme ça. Après, t'as plein de contre-exemples. Joe Rogan, tu vois, il fait des podcasts de 3 heures. On parlait de Mathieu Stéphanie aussi, il fait des podcasts très longs. Il y en a qui font des capsules de 5 minutes. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir, pas en termes de durée, il faut réfléchir en termes d'usage. C'est-à-dire, aujourd'hui, finalement, il faut ancrer ton émission dans un temps. Tu vois, par exemple, est-ce que si moi je vais faire un contenu, si c'est par exemple pour qu'il soit écouté en courant, on sait qu'en moyenne, nos coureurs, ils courent 1 heure. Donc, je vais faire un podcast d'une heure. Si les gens, ils ont des transports en commun, tu vois, ils vont m'écouter dans le métro, c'est 20 minutes. Donc, je vais faire des podcasts de 20 minutes. Donc, nous, on essaye plutôt de se dire dans quel instant je vais m'inscrire. Parce que il y a de la concurrence aujourd'hui. Certes, je fais un podcast, mais si je fais ma capsule du vendredi, qui est un format plus court, je suis en concurrence avec une playlist Spotify, avec Candy Crush s'il joue à Candy Crush dans le métro, ou avec Instagram s'il va scroller TikTok et Instagram, tu vois. Donc finalement, nos concurrents aujourd'hui, c'est pas seulement les podcasts, nos concurrents, entre guillemets, nos concurrents.
C'est la guerre à l'attention.
Voilà, c'est l'attention. Donc, il faut penser en termes d'usage. Voilà, je vais faire un format qui sera parfait pour être écouté là.
Et ça tu l'avais théorisé dès le début? Ou alors, c'est chemin faisant que tu t'es dit, attends,
non,
on va
ajuster? En fait j'ai un peu sondé et tout sur des voilà, j'ai interrogé ma communauté en disant, c'est un sondage anonyme, allez-y et tout. Et à l'époque, tu avais un podcast qui durait 2-3 minutes, qui marchait très très bien. Je sais plus comment il s'appelle.
Ouais, aujourd'hui, tu as Mourir moins con.
C'est Mourir moins con et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là, ils écoutaient beaucoup aux toilettes, figure-toi. C'est quand tu as ce souci, comment je suis peux écouter 2-3 minutes. Et bah voilà.
Micro sont... moment d'attention.
Et bah voilà, micro moment d'attention. Ouais. C'est quotidien chez les utilisateurs et c'est un podcast qui est écouté aux toilettes. Ça dure 2-3 minutes. Tu vois. Alors c'est particulier parce que bon, moi je vois pas trop. Il y a des gens qui écoutent des podcasts aux toilettes, mais en tout cas voilà.
T'étais mal à l'aise à cette idée.
Voilà. Mais ouais. En tout cas, alors je dis pas que tous, mais en tout cas ils s'incréent bien dans ça et ça marche bien par rapport à ça. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que du coup, bah t'es tout seul dans ce, tu vois, t'as trouvé ton dire. Et c'est l'une des, parce que je ne comprenais pas comment un podcast de 2-3 minutes pouvait finalement, parce que ça demande un effort, il faut que tu ouvres ton téléphone, que tu vas t'ailles chercher le contenu pour un contenu de 2-3 minutes, parce que tout demande un effort aujourd'hui aux gens. Mm. Donc est-ce que ça vaut le coup? Bah voilà, là c'est, tu vois, et c'est un podcast qui cartonne parce que du coup il est tout seul dans son truc. Donc moi je préfère plutôt réfléchir en termes d'usage. Ça veut pas dire que tout le monde va écouter en courant, c'est peut-être que la moitié, mais ça me déculpabilise, tu vois, c'est un truc.
Et alors, plus qu'un podcast aujourd'hui dans la tête d'Aquor, ben on l'a dit, hein, c'est un véritable média, c'est ce que tu expliquais très bien, PE. Hein, et là-dessus, vous avez développé une très grosse présence sur les réseaux sociaux. Moi, je suis impressionné du travail qui a été fait de ce côté-là. Juste quelques chiffres, hein, 56 000 followers sur Instagram, 15 000 sur TikTok, 11 000 sur YouTube. Là, je donne qu'un bout de l'équation. Tu m'as parlé d'une newsletter à côté, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est clé pour un podcast, pour un podcasteur, quelqu'un qui souhaiterait se lancer, faut-il aller plus loin que l'audio ou est-ce que juste en audio, je peux exister?
Ouais, bah pour nous, c'est évident. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas, comme si tu es un YouTuber, l'algorithme de YouTube, il va peut-être te pousser ta vidéo, il va peut-être te permettre d'être découvert par des gens qui ne te connaissent pas. Sur l'audio, ce n'est pas le cas. Donc si tu n'as pas des leviers d'acquisition forts autour, si tu ne peux pas driver des gens sur ton podcast, il y a peu de chances. Il y a des chances que ça soit découvert, mais c'est pas, tu t'assures pas de la possibilité maximale que les gens te découvrent. Donc dès le début, ouais, on s'est dit, quel levier on peut actionner, quel levier on maîtrise. Il y a l'événementiel dont on n'a pas parlé, qui est aussi un levier d'acquisition fort pour nous, mais les médias les plus évidents, au départ, c'était le social, qu'on maîtrisait déjà bien. Et sur laquelle, comme disait Guillaume sur le podcast, on s'adapte aux usages, on s'est adapté directement aux usages, on essaie de toujours apporter de la valeur, c'est pas spécialement, tu vois, on va pas annoncer il y a tel épisode qui sort et tel épisode qui sort, c'est on va extraire des capsules, on s'est rendu compte que le podcast, on travaille sur du temps long, donc on a du contenu qu'on peut décliner, qu'on peut dupliquer, sur lequel on peut extraire des capsules de valeur, et on sert de ce contenu-là pour animer nos réseaux sociaux en apportant toujours du contenu qui apporte quelque chose d'intéressant, c'est pas spécialement uniquement du teasing ou des choses comme ça. Et donc, pour répondre à ta question, ouais, je pense qu'on peut s'en sortir, mais on peut pas s'en sortir bien si on n'active pas sur les leviers digitaux.
Nous, c'est le constat qu'on a fait aussi, hein, parce qu'en regardant ce que vous faites du côté d'Instagram, j'ai retrouvé beaucoup, et c'est marrant parce qu'on a fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, hein, je disais, on a fait beaucoup, nous, les podcasteurs, des choses parallèlement dans notre coin, puis on se rend compte qu'on a, petit à petit, on est retombés tous un peu sur les mêmes patterns. C'est vrai, l'upcycling de ce contenu, plus que du recyclage, c'est l'upcycling, je trouve que c'est ce que vous parvenez à faire très bien, c'est créer un contenu format long et le réadapter dans un format différent sur les réseaux sociaux. À ce titre, sur les plateformes sociales, ben vous proposez un paquet de formats vidéo, format 9-16, hein, ça y est, là vous êtes dessus, format Reel, TikTok, t'inquiète, c'est maîtrisé, qui reprennent tout le contenu, le cœur du contenu du podcast, mais dans une version courte, adaptée. Est-ce que, à l'inverse, vous sentez maintenant que vous êtes amené à façonner aussi votre audio pour plus facilement l'adapter au format social media?
C'est une excellente question. Et oui, on le fait. Aujourd'hui, en fait, c'est la base. C'est-à-dire que nous, comment moi je procède, c'est que le titre de l'épisode vient avant le fond du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur une miniature, j'ai travaillé sur un titre, j'ai travaillé sur une accroche, j'ai travaillé sur un arc narratif. Et ensuite, je vais travailler sur mon contenu, sur mon article, sur vraiment le fond de mon dossier. Mais c'est la forme, en fait, qui va driver le fond. Ce qui ne veut pas dire qu'on va négliger le fond. Hein. Attention, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est aujourd'hui, on peut plus se permettre de choisir entre le fond ou la forme. C'est les deux. Tu vois, il y a plus le
donc
choix.
Donc, tu es en train de me dire que tu travailles d'abord ton accroche.
Ouais,
ce
exactement.
Ce qui potentiellement peut être derrière upcyclé en petit format, vidéo 9/16, etc., réadapté. Et puis après, tu travailles le fond.
Exactement.
Là, c'est la version longue de ton podcast, c'est ça, hein?
Exactement. On a nos punchlines déjà. Si tu veux, on sait déjà. Moi, avant d'enregistrer l'épisode, je sais déjà quel extrait je vais pouvoir extraire, quelle intervention je vais pouvoir extraire. Enfin, après, il y a toujours de la surprise, hein, c'est jamais calculé à 100%, mais voilà, je mets déjà des warnings sur attention. Là, ce passage-là, on va essayer de l'extraire, donc essaye de mettre un petit peu plus d'intensité quand tu vas parler, essaye de regarder la caméra quand tu vas parler de ce sujet-là, parce que c'est vraiment
cet extrait-là. On fait la même chose ici, j'arrête pas de dire à Jan et Kevin, là, maintenant, là, c'est la face cam à cet endroit-là.
Donc, voilà. Et après, on va même. Alors, au début, je pense qu'il ne faut pas seulement extraire, tu vois, c'est facile d'extraire des contenus, c'est sympa, mais il faut aussi vraiment créer. Tu vois, des contenus qui vont vraiment vivre uniquement en vidéo courte. Alors nous, le parti pris qu'on a eu avec PE, c'est de se dire là sur la saison 5, en fait, on est passé 100% vidéo parce que voilà, la vidéo, ça, c'est aussi un nouveau métier. C'est aussi quelque chose qui offre plein de nouvelles opportunités. On a vu le TikTok, on a vu Instagram aussi qui a beaucoup boosté ça. Et on s'est dit, pour vraiment jouer le jeu à fond, il faut se mettre une contrainte parce que sinon, tu ne vas pas y aller en fait à fond. Et là, vu les enjeux que tu as en ce moment et vu les opportunités que tu as en ce moment avec la vidéo, et c'est ce que je peux conseiller à n'importe quel CM, s'il y a des community managers qui nous écoutent, c'est qu'il faut, en fait, faut s'imposer une contrainte. C'est souvent la créativité naît souvent aussi du manque et de la contrainte. C'est ces deux éléments-là. Et donc, la contrainte que nous, on s'est trouvé, c'est on fait plus de photos, on fait plus de fixes. C'est 100% vidéo. Comme ça, on est sûr d'aller à fond sur ça. Et c'est hyper payant parce que 15 000 abonnés en quelques, même pas en un peu plus d'un mois sur Instagram. On a gagné, on est passé de 30 000 à 56 000 en quelques mois. Donc, ça a été payant. Et vraiment, aujourd'hui, voilà, typiquement, je te parlais de la Saint-Élion tout à l'heure. Donc, tu as vu déjà, on a un arc narratif. On ne va pas là-bas couvrir un événement sportif. On vient faire une enquête pour découvrir qu'est-ce que les gens aiment sur ce. Donc, la promesse, elle est différente, tu vois. Et on a fait un Reels d'une minute où pareil, on donne ce pourquoi est-ce que cette course plaît. Et en une minute, on répond à ça. Mais ça, ce n'est pas un contenu qui va vivre en podcast. C'est vraiment fait que pour le social.
C'est capsule, moi, que j'appelle d'infotainment. C'est-à-dire, à la fois, c'est cool à regarder, c'est distrayant. Et en même temps, il y a de la matière, il y a du contenu, il y a de l'info. Dedans, c'est quoi aujourd'hui votre workflow de production exactement? Tout à l'heure, vous disiez on est 5 personnes chez Sunday Night Production. 5 personnes pour produire tout ça, comment ça se passe?
Ouais, c'est ça, on s'est bien réparti. Guillaume est vraiment à la tête de l'édito, donc on va dire en début de saison ou en demi-saison, il produit un calendrier qui va nous dire à peu près ce qui va sortir chaque mois. Derrière, on a Lauriane qui va gérer toute la gestion opérationnelle, donc qui va driver je me perds dans les prénoms, Justine et Nalouen. Justine, elle va être en charge de toute la production graphique, donc statique pour nos sites internet et vidéo pour Instagram et TikTok. Et Nalouen qui va rédiger tous les articles. Et après, on produit aussi du coup pour des marques. On produit du contenu dans nos lignes éditoriales pour les marques. Et ce qui est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, c'est ces épisodes-là qui fonctionnent en général le mieux. Parce que c'est aussi celle sur laquelle on a le plus d'attention, sur laquelle on va souvent délocaliser sur des événements. Et c'est cette partie, parce qu'on est un média digital, c'est la partie où on va vraiment à la rencontre de nos auditeurs, on va vraiment sur les temps forts des courses, qui en termes d'audience nous portent aussi sur cette cinquième saison et qui font qu'on a des beaux succès.
Alors, autre chose qui m'a étonné dans votre dispositif social media, c'est votre grosse présence sur LinkedIn. Voilà, j'ai été étonné. Aujourd'hui, vous avez une base d'audience solide. Je suis allé voir, ça engage, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on peut expliquer que sur un réseau social professionnel, eh bien, il y ait la place pour un média sportif 100% B2C, un loisir, quoi.
Un loisir, oui, non, parce que finalement, aujourd'hui, quand tu es un chef d'entreprise ou un salarié avec des responsabilités, tout ça, ça génère de la pression, ça génère aussi un petit peu, un petit peu d'anxiété, un petit peu de pression, un petit peu de stress, et donc t'es obligé d'évacuer ce stress. Alors l'image du chef d'entreprise, tu vois, qui fume son cigare, qui boit son petit whisky, et non, aujourd'hui les chefs d'entreprise sont des sportifs de haut niveau. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils vont faire attention à leur alimentation, ils vont faire attention à leur sommeil, ils vont faire attention à, ils vont faire du sport parce qu'ils veulent renvoyer une image d'eux qui est une image, tu vois. De quelqu'un de solide, entre guillemets, mentalement. Dans les pelotons de coureurs, aujourd'hui, tu retrouves beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de cadres supérieurs. Nous, notre audience, elle est quand même très CSP+, par rapport à ça. Donc, le stress que tu vas avoir dans un sas de départ, quand tu vas apprendre, nous, on va arriver, on va travailler avec, comment est-ce que tu gères justement ce stress? C'est de la pression. Hein, dans un sas de départ, tu pars, par exemple, pour la Saint-Élion qui fait -3, qui neige, qui pleut, tu te dis, mais dans quel état j'ai fini? Tu as un stress, tu peux pas y aller. Apprendre à gérer ce stress-là, ça va être utile aussi pour une prise de parole en public. Tu vois,
je vois très bien, ce que je trouve très intéressant, c'est d'être allé proposer ce contenu au cœur de la plateforme LinkedIn. Quand tu le racontes, ça sonne comme une évidence, mais ça l'est pas forcément. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de médias qui sont très au frein à main à aller investir LinkedIn, ou quand ils y vont avec un angle qui est différent, qui est celui de leur fameux engagement RSE ou parler de leur problématique RH, etc., etc. Vous êtes resté corps média, j'ai envie de dire, focus sur votre pleine valeur de média sportif au cœur de LinkedIn.
Exactement. Et puis LinkedIn, c'est un podcast qu'on va beaucoup investir parce que moi, j'aimerais vraiment embaucher quelqu'un qui va gérer. Je pense que c'est vraiment, c'est comme TikTok pour moi, version. Il y a un énorme potentiel sur LinkedIn. Après, il faut produire, il faut un peu plus de moyens. Donc nous, c'est aussi un média qu'on va essayer d'aller attaquer un petit peu plus là. Mais moi, j'y crois beaucoup. Et puis, voilà, sur la gestion du temps aussi, parce que finalement, faire du sport, c'est aussi savoir gérer son temps. Parce qu'aujourd'hui, la contrainte de nos auditeurs, ils nous disent pas « aidez-moi à battre mon record, aidez-moi à être encore meilleur ». Ce qu'ils me disent, c'est « aidez-moi à pratiquer, je viens d'avoir un bébé, j'ai deux enfants à la maison, j'ai mon travail, comment est-ce que je peux gérer mon temps ?» D'ailleurs, on a travaillé avec des personnes qui font de la gestion du temps, des coachs qui gèrent des gros chefs d'entreprise et qui aident nos auditeurs à planifier, à comment est-ce qu'on peut faire. Donc, on voit, tu vois, que ce monde, toi, Thibaut, il n'y a pas le Thibaut sportif, Thibaut famille, tu vois, t'es un seul et même personne, c'est juste que tu as des usages, des médias. Et tu vas aller chercher sur les plateformes les médias qui t'intéressent. Donc nous, on va voir cette approche-là plutôt. Comment est-ce que le sport peut vous aider dans votre vie professionnelle à travailler votre mental, à mieux gérer, à mieux récupérer? Et les qualités que vous allez développer à travers le sport vont vous être utiles dans votre vie professionnelle. Et c'est ça aussi. C'est là où là, je te dis qu'on s'intéresse aux bénéfices du sport, pas au sport en lui-même. Tu vois, c'est vraiment... nous, on travaille vraiment sur ce que le sport peut vous apporter et comment vous pouvez le dupliquer à votre vie de tous les jours.
Et puis alors, tu le disais, PE, dans la tête d'un coureur, propose aussi des épisodes qui sont sponsorisés, hein, qui sont faits en partenariat avec des marques. Je pense notamment à cette rubrique récit qui est faite avec la marque Salomon. Passionnant, j'ai kiffé le monsieur qui faisait la Swiss Peaks, etc., qui a eu des hallucinogènes, qui a eu des hallucinations, pardon, chemin faisant, super, effectivement, c'est ultra quali, très beau récit, etc., très intéressant. Comment ça se passe, un partenariat de ce type? Est-ce que c'est vous qui approchez Salomon, qui lui dites hey, écoute, on a un concept, on va parler de pratiquants et on va les mettre, ou est-ce que la marque vient vous solliciter en disant nous, on aimerait. Comment ça? Dans quelle heure ça marche?
Ça dépend vraiment des cas. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre business model, il n'est pas basé que sur la régie. Donc, ça permet aussi d'avoir un peu de la liberté dans le choix de nos projets.
Donc, ce que tu appelles la régie, si tu peux
juste. La régie, c'est les épisodes sponsorisés, les épisodes classiques, les OPS, vraiment tous les épisodes qui sont sponsorisés, enfin, pour lesquels des marques vont donner de l'argent pour produire du contenu.
Donc ça, c'est qu'une partie de votre business model.
C'est une partie de notre business model. Okay. La deuxième partie, bon, c'est moins le sujet, mais c'est proposer du contenu premium à nos utilisateurs qui vont, par exemple, dans le cadre de la course à pied, vouloir préparer un marathon.
Ah, très bien, ok.
On va les coacher, on va leur proposer du contenu dédié, on va leur proposer des plans d'entraînement dédiés et ils vont payer pour ça. Donc, ils vont payer en plus du contenu gratuit qu'on leur propose dans le podcast.
Excuse-moi, donc là, sur ce pendant-là, c'est les deux piliers de la créateur économie là, dont tu es en train de me parler. C'est-à-dire contenu sponsorisé en partenariat avec un partenaire, une marque, et puis de l'autre côté, un contenu à forte valeur ajoutée pour lequel mes abonnés, mes consommateurs de contenu sont prêts à payer.
C'est exactement ça. Et cette partie vraiment premium, c'est un peu le garde-fou pour s'assurer que côté régie, on puisse se permettre d'avoir des projets qui ont vraiment une valeur ajoutée et pour le studio, et pour l'annonceur, et surtout pour l'auditeur. Parce que c'est vraiment le triptyque qu'on regarde en premier quand on reçoit des briefs ou quand on répond à des appels d'offres, c'est qu'on puisse pouvoir avoir de la valeur sur ces trois piliers-là. Parce que si on fait pas d'audience, on va être déclassé, les gens vont pas s'intéresser au contenu. Si c'est un truc massif pour une campagne de pub qui a aucun sens pour nos auditeurs, bah ça n'a pas de valeur non plus. Et s'il n'y a pas forcément de valeur ajoutée sur ce que n'apporte l'annonceur, ça ne va pas être intéressant pour nous. Donc on regarde vraiment ces trois piliers-là. Et après, on réfléchit créativement avec les boîtes avec lesquelles on travaille pour proposer un contenu qui réponde à ces trois critères.
Et juste un point là-dessus, dans quelle mesure Salomon, hein, puisque là, cette chronique récit, dans quelle mesure Salomon se dit pas, ou vous, hein, vous n'avez pas une proposition qui est de dire, créons un podcast pour Salomon qui s'appelle Récit. Quel est le cheminement de pensée qui fait que c'est plus intéressant de l'intégrer à votre ligne éditoriale?
Nous, alors au début, on a essayé un peu d'aller sur la création de marque blanche, mais en fait, on pense que c'est pas... Le problème de la marque blanche, c'est que ça va coûter quand même très cher à un annonceur, c'est-à-dire qu'il va falloir créer sa chaîne, en fait, son média.
Son audience,
il va partir de zéro, il va devoir aussi travailler sur les réseaux sociaux et tout, et c'est un labeur extrême.
Hein, Et sur une durée longue.
Donc, en fait, généralement, l'annonceur, lui, il a une problématique où il lance un produit, il a une problématique qui va être sa problématique pendant 2-3 mois, tu vois, après, ce serait une autre problématique, et il n'a pas ce temps-là, tu vois, il a besoin, tiens, je lance un nouveau service, un nouveau produit et j'ai besoin de faire connaître ce produit-là. Donc, il veut quand même un peu d'instantané. Donc, nous, le parti pris maintenant qu'on s'est dit, c'est on va créer en fait un programme, une émission directement dans notre chaîne. Il va pouvoir bénéficier comme ça d'un carrefour d'audience, tu vois. On va pouvoir rationaliser
ultra niche,
les coûts.
Ultra ciblé.
Ultra niche, nous, on est... Enfin, tu vois, aujourd'hui, on a quand même un volume d'audience qui fait que, tu vois, on s'adresse... pas co-pratique, enfin, tu vois, c'est vraiment tout ce qui... Il y a même des gens qui courent pas, qui nous écoutent.
Donc, ah, ok,
c'est vraiment...
d'accord.
Ouais, okay, c'est okay, vraiment... Okay. Enfin, quand même un volume d'audience qui est quand même assez important. Et en plus, si tu rajoutes à ça nos autres médias, on a quand même un volume d'audience qui est important. Donc, il va en bénéficier. Et on va quand même créer une émission tu vois, sur 4-5 épisodes, une rubrique comme ce qu'on aurait pu faire ailleurs, mais sans qu'il ait tout ce travail en partant de zéro. Alors, si un annonceur a une stratégie long-termiste, par exemple, nous, on travaille avec ASO, Amaury Sport Organisation, donc pour le Schneider Electric Marathon de Paris. Et finalement, le Marathon de Paris, bah, ça devient aussi un média. Donc, eux, ils ont une stratégie vraiment sur 2, 3, 4 ans. Là, c'est intéressant d'investir et de mettre des moyens. Mais si tu lances juste un nouveau service ou une nouvelle chaussure, un nouvel programme, bah voilà, te prends pas la tête. En fait, c'est comme si aujourd'hui, faire un podcast... C'est ce que je dis aux annonceurs. C'est comme lancer un magazine, tu vois. Si tu lances un magazine, il ne suffit pas juste de le mettre dans les kiosques. Il faut avoir que tu vas faire un événement avant, tu vas devoir faire des RP, tu vas devoir tout un travail ou une chaîne de télé, tu vois. Ça ne viendra pas l'idée de lancer une chaîne de télé sans faire tout un marketing autour. Si tu n'es pas prêt à faire ça, ne le fais pas. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, en fait, on fait, voilà, ça. On essaye de proposer une solution qui va être performante. Et pour nous, c'est la seule qu'on ait trouvée. Et du coup, ça nous apporte du contenu aussi pour nous. C'est du contenu quali, comme tu dis, qui fonctionne. Ça fait du volume d'audience. Tout le monde est gagnant, en fait.
Je comprends. Alors, j'aimerais bien aussi qu'on parle des communautés. Parce que nous, ici, c'est quelque chose auquel on croit fort chez Supernatif. C'est qu'il n'y a pas de réseau sans communauté. Et que plus les choses vont, plus le social media, les algorithmes tendent à créer, renforcer les liens communautaires. Et à ce titre, eh bien, les communautés running, elles sont hyper active hein, sur les réseaux. Juste quelques chiffres. Sur Instagram, le hashtag running, 85 millions de publications derrière le hashtag running. Sur TikTok, le même hashtag, hein, plus de 13 milliards de vues de vidéos. C'est vraiment énorme. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'hyper présence de ces communautés en ligne? Est-ce qu'il faut y voir un lien avec le fait que, finalement, c'est une pratique de sport en individuel ou ça n'a rien à voir? Comment se fait-il que ces communautés-là sont si fortes et historiquement, hein?
Ouais, moi je le vois, je suis assez aligné avec ce que tu dis sur le fait que ça soit un sport individuel sur lequel on a quand même envie de partager. Nous on le voit beaucoup sur, on a des groupes privés pour les athlètes qu'on encadre. Les publications qui reviennent le plus, c'est des publications où c'est nos athlètes qui vont publier leur séance du jour, qui vont dire j'ai fait ça, j'ai fait telle course, je me suis classé tant. Et il y a ce besoin de partager, d'être reconnu, de se faire valider en quelque sorte par ses performances ou par ses courses. Et je pense que c'est attrait vraiment au fait que ça soit un sport individuel qui se pratique en général seul. Enfin, pour la plupart de nos auditeurs, ils sont pas en club, ils sont pas dans des structures fédérales. Et ils ont besoin de partager, de se sentir valorisé par leur pair finalement. Et c'est pour ça qu'ils partagent du contenu à bloc. Après, tu disais, il y a beaucoup de communautés de running. Il y en a beaucoup qui se tapent dessus aussi. Il y a beaucoup de, tu vois, les trailers.
J'allais y venir. J'avais une petite question là-dessus sur les rapports de force entre les communautés. Ouais.
Bah, nous, on est tout de suite parti du parti pris qu'on voulait fédérer, qu'on voulait pas être un média de trail, on voulait pas être un média de piste, on voulait pas être un média de triathlon, on voulait pas être un média de route. On voulait pouvoir parler à tous ces gens-là et dire à ces gens-là qu'en fait, ils ont à prendre dans chaque communauté et qu'ils peuvent trouver de la valeur dans chacune des pratiques. Donc,
au passage, ça, je trouve ça fascinant, c'est que peu importe la communauté que tu vas analyser, tu vas te rendre compte à peu près systématiquement qu'une communauté, elle se constitue aussi si elle a des ennemis. Ouais, elle se constitue aussi contre. Donc, parfois même au sein d'une communauté, tu vois, il y a quelques épisodes en arrière, on faisait un épisode sur les sneakers et notamment les communautés autour des passionnés de sneakers. Et là aussi, bah, t'as des clashs au sein de ces communautés-là. C'est ce qui, sans doute, fédère les communautés. Bon, ça fait partie du jeu. Donc, vous jouez la carte du média englobant, en tout cas, très peaceful là-dessus. Sur quelle plateforme, toi, PE, tu perçois le plus d'opportunités à t'adresser aux communautés du running? Parce qu'on l'a dit, Instagram, LinkedIn, et là sur TikTok, vous arrivez en quelques mois à faire exploser votre compteur. C'est que le début, il est vraisemblable qu'assez vite le compteur s'emballe. C'est où que tu perçois aujourd'hui le plus de possibilités?
Dans le futur, je pense que c'est TikTok. Instagram, on est arrivé à un niveau de maturité, on arrive à comprendre vraiment ce qui fonctionne. Sur TikTok, on arrive à comprendre ce qui fonctionne pas, mais on n'a pas encore réussi à comprendre ce qui fonctionne bien, quoi. C'est un peu aléatoire. Mais c'est sur le média sur lequel on voit qu'il y a plus de traction, sur lequel on voit que les audiences peuvent s'emballer d'un coup. On a fait des vidéos, on est allé au marathon de Berlin en octobre, je crois.
Septembre.
On a fait des vidéos qui ont fait plus de 5 millions. Enfin, on comprend vraiment ce qui marche pas. On sait ce qu'il faut plus publier, mais on sait pas encore ce qui marche fort, quoi.
Est-ce que vous percevez l'impact de la transformation des algorithmes vers des algorithmes de recommandation par centre d'intérêt? Est-ce que vous en bénéficiez?
Bien sûr, bien sûr, mais c'est un changement de paradigme, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, je vais dire, sont morts, parce que voilà, c'est à toi de me le dire. C'est plutôt toi le spécialiste, mais on va dire, les gens font vachement attention à ce qu'ils postent. On l'a vu avec la confidentialité, ce genre de choses. Et puis, voilà, je pense que les gens en reviennent un peu. Donc, on voit qu'aujourd'hui, Instagram n'est plus un réseau social, mais un réseau de de consommation de contenu. Donc, tu viens chercher des créateurs, un peu comme une chaîne de télé, finalement. Tu viens chercher du contenu. Donc, il y a eu cette bascule entre réseau social et plateforme de distribution de contenu, notamment.
Et divertissement, hein.
Le divertissement, de toute façon, c'est au centre de tout. Toutes les sociétés occidentales, c'est le divertissement qui est le nerf de la guerre, on va dire. Hein. On va pas se mentir. Hein. Les gens, aujourd'hui, ils veulent apprendre, mais ils veulent aussi s'amuser. Ils veulent aussi, tu vois. Donc, c'est pareil. Hein. Ça, y a plus le choix. Il faut un contenu, même éducatif, qui soit divertissant. Et voilà, et donc c'est forcément, nous on bénéficie de ça parce que il y avait une économie qui était beaucoup tournée autour des influenceurs, donc qui postaient un peu leur vie, leur quotidien, et on voit aujourd'hui que les influenceurs qui sont pas capables de créer du contenu qui est plus centré sur eux-mêmes, sont en train de perdre la file, ou voilà, parce qu'ils savent pas faire de la vidéo ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment un renouvellement aujourd'hui des acteurs. Ce renouvellement, il est assez sain parce que ça permet aussi d'avoir un peu de sang neuf. Et c'est, si tu t'adaptes pas, en fait, tu meurs. Il n'y a pas de.
Oui, et puis comme tu le dis, je suis d'accord, je partage le point de vue. Il y a de moins en moins de social dans le social media, de plus en plus de médias. Je suis d'accord avec ça. Avec sans doute une force pour un média comme le vôtre qui est spécialisé dans une pratique sportive, c'est celle d'être au cœur du coup des logiques de recommandation algorithmique, là où des historiques peut-être comme l'équipe, c'est plus complexe parce que t'es multisport. Alors t'es noyé dans les communautés centres d'intérêt, ce qui explique par exemple certaines marques, tu vois Decathlon sur TikTok, ils ont une présence de marque multisport, eh bien elle est finalement moins efficace cette présence là que Quechua fait partie du même groupe, qui a une présence très dédiée à la verticale outdoor et qui a plus d'efficacité.
C'est compliqué parce qu'en fait, c'est un vrai enjeu, et ça, c'est ce que nous on fait, c'est qu'il faut réussir à créer un peu des niches dans les niches, tu vois, systématiquement. Et c'est nous, c'est le parti pris. C'est pour ça qu'on aurait pu développer Sunday Night Sport et puis, tu vois, être multisport et faire tous les sports, un peu comme un modèle comme l'équipe et Eurosport. Nous, on n'y croit pas. On veut vraiment créer pour chaque sport une plateforme. Mais quand un annonceur vient communiquer chez nous, par exemple, je sais pas, je suis BMW, tu vois, et je veux mettre le X5. Sur les quatre roues motrices, pour le trail, on va accentuer sur ça. Si c'est un cycliste, il va à la capacité du coffre, et on va à chaque fois dupliquer en fait son message sur tout notre écosystème. Mais au final, tous ces médias, ça fait 1 million, tu vois, d'auditeurs uniques, mais vraiment très ciblés, ou que tu peux travailler la créa sur les spécificités. Et nous, on croit beaucoup à ce modèle-là. Je pense qu'à l'avenir, le studio, c'est finalement la régie qui vient centraliser les demandes, et ensuite on duplique et on adapte pour chaque média. Et là, d'ailleurs, on a un volume. C'est ce qu'on veut arriver à faire. On veut arriver à aller attaquer des RMC ou des L'Équipe, mais avec une multitude de marques qui est centralisée après sur une seule régie. Et ça, on croit beaucoup à ce modèle-là parce que, comme tu le dis, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça aujourd'hui qu'on voit très peu de contenu L'Équipe passer sur les réseaux sociaux, très peu de contenu d'Eurosport. Je sais pas si t'en vois, moi j'en vois quasiment
non,
pas, tu vois.
Non, mais parce que je pense qu'ils sont difficiles à me
recommander. Même la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, là, c'est pas eux que je vois, quoi. Tu vois, donc je dis pas qu'ils ont pas de volume et pas de puissance, parce que évidemment, ils savent très bien y faire, et je suis pas là à démigrer. Hein. Ils font un travail extraordinaire. Et nous, notre force aussi, c'est ce qu'on fait sur Force du Studio, c'est aussi notre capacité à industrialiser ce contenu et à maîtriser les coûts, parce qu'aujourd'hui, une rédaction, ça coûte très très cher. Il faut plein de journalistes, et l'efficience aujourd'hui, vu qu'ils sont moins adaptés au modèle, ils sont pas suffisamment assez efficients. Donc nous, vraiment, on veut se développer, on veut créer beaucoup d'audience avec une équipe qui soit la plus courte possible, qui industrialise vraiment, qui sait maîtriser tous ses coûts de production, parce que c'est là où la bataille va se gagner, en fait. Hein. Moi, je suis convaincu que c'est vraiment de la logistique. Hein. Le média, c'est de la logistique. Comment tu produis, comment tu arrives à rationaliser, comment tu limites le temps passé. Donc ça, c'est avec des gens hyper compétents. Hein. On parlait Lauriane, Nolwenn, Justine. Donc on va vraiment recruter des gens très talentueux, très, très performants. Et on va avoir une petite équipe qui va être capable de produire de manière
intelligente. T'as une annonce à faire, parce que là,
on va recruter là prochainement, mais tu vois, voilà. Mais c'est vraiment là où ça va jouer. Hein. C'est vraiment, c'est pas seulement que le contenu, ça va jouer, ça va être très très logistique. Comment je produis, comment j'industrialise et comment j'arrive à être efficient pour produire sur toutes les plateformes et tout. Donc ça, c'est vraiment là où nous on met la force, tu vois. Et
je comprends. Mais je pense que t'as raison. C'est clé. Hein. Faut tenir cette cadence. Faut gagner cette guerre à l'attention. Faut y aller armé. Alors là, on parlait de plateforme. Moi, il y a une plateforme, je trouve, de niche un peu mystérieuse pour nous experts généralistes du social media, c'est Strava. Strava, est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que vous, c'est comme ça que vous le considérez? Et quelle est aujourd'hui votre présence média sur Strava?
Pour nous, c'est un réseau social. C'est un réseau social qui est très puissant pour nos communautés, parce que c'est le cœur de la niche et c'est le cœur de la pratique. En fait, c'est Strava. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent tous, mais c'est une plateforme sur laquelle on va venir reporter toutes nos sorties de quelque activité sportive qu'elle soit, que ce soit, et sur lequel les marques, les annonceurs, les médias peuvent publier aussi du contenu au même titre qu'un social média. Nous, on l'utilise beaucoup pour générer du trafic vers les autres plateformes. C'est pas un réseau social sur lequel on fait spécialement pardon, de la conversation. On va rentrer vraiment dans des débats profonds. C'est un réseau comme Facebook qu'on utilise pour driver du trafic vers notre site internet ou vers nos podcasts.
Avec des résultats probants ?
Avec
t'es
des résultats ouais. intéressants, ouais.
Ok.
Ouais, c'est nos deux plateformes les plus performantes sur drive vers le site internet.
Alors nous, on a une marque qui est, je fais genre, on connaît pas, mais on a une marque qui s'appelle Petzl Running, donc les frontales. Hein, vous avez dû en voir beaucoup ce week-end, je pense d'ailleurs.
Oui.
qui eux ont une présence de marque très efficace aussi sur Strava, et ça, c'est quand même très étonnant aussi de voir comment les réseaux sociaux sont eux se spécialisent aussi hein, comme ça par thématique. Et donc Strava, oui, bah c'est le réseau social des runners, aucun doute là-dessus. Les gars, avant qu'on je sais que vous avez des échéances, je te vois regarder ta montre, Guillaume, il est en stress. J'aimerais juste quand même qu'on redise un mot sur le studio Sunday Night Production. Est-ce qu'on appelle ça un studio ? Qu'est-ce que c'est ? Une boîte de prod
Ouais, c'est un studio. On produit des médias, en fait. C'est vraiment la base, c'est le podcast, parce que c'est le cœur de notre contenu et c'est vraiment le temps long sur lequel on va décliner ensuite sur toutes les autres plateformes. Mais c'est un studio de production de contenu digitaux, natifs, mais qui a vocation à traiter tous les sujets du sport avec un angle de bienveillance, d'inclusion, de démocratisation des pratiques, parce que c'est l'enjeu principal du studio, c'est de donner envie aux gens de se lancer dans une pratique sportive, dans une activité physique, pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête.
Y a d'autres programmes, il y a toute une série de programmes, si on devait en citer trois là, en plus dans la tête d'un coureur.
Mordu, un podcast sur les sports, alors je parle de Mordu parce que c'est un podcast sur les sports de glisse, donc l'été si vous aimez le surf, le kitesurf, voilà, c'est pas mal, mais l'hiver évidemment on va parler plus que les sports de glisse, donc biathlon qui marche très fort en ce moment, ski de fond, toute l'actualité autour du ski, dans la tête d'un cycliste qui est vraiment aussi notre dernière pépite. Là, on en a la saison 2 avec Arnaud Manzanini qui produit ça. Mordu, pardon, j'ai pas cité Mathieu Gosselin qui fait un super boulot, et d'un tête d'un cycliste, c'est Arnaud Manzanini.
Qui est lyonnais
en plus.
Ah, très
ouais,
bien.
Ouais, qui
est lyonnais. Il faut qu'on fasse connaissance.
Exactement. Et qui, voilà, qui est sur la thématique du vélo, mais le vélo vraiment sous toutes ses formes. Hein. Ça veut dire vraiment, on va s'adresser aux gens qui prennent leur vélo pour aller au travail.
Okay.
Exactement.
Maintenant, on en a ici.
Et ceux qui vont même prendre du gravel pour faire des petites randos et tout. Donc, c'est plus ceux qui vont regarder le Tour de France. Donc, voilà, il y a toujours cette envie de.
Grosse communauté.
Voilà,
là aussi,
de fédérer les communautés. Parce que tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est tribal, nous, l'être humain, avec, voilà, nous, les hommes, avec un grand H, on est tribal. Donc c'est vrai que sur le social, il faut rentrer dans la sous-niche, comme tu dis, trouver aussi un peu les adversaires entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on engage les communautés. C'est des mécanismes qui sont très puissants, à pas se mentir. On aurait une croissance beaucoup plus forte si on allait vers ces mécanismes-là. Sauf que c'est pas très sain, tu vois. Donc nous, c'est pas très sain, mais ça crée des dualités, ça crée des conflits. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde, il est suffisamment assez anxiogène comme ça. Nous, on veut vraiment pas aller sur ça. Et c'est une vraie contrainte, parce que du coup, tu vois. Bah oui, c'est vrai qu'on a l'engagement, il faut le créer différemment et il faut se creuser un peu plus la tête. Mais par contre, on pense que c'est vachement plus durable parce que à un moment donné, en fait, tu cloisonnes quoi, en fait, tu vois. Donc c'est le switch, comment tu le fais. Et nous, c'est peut-être une croissance qui est importante, mais elle pourrait être encore plus exponentielle. Mais par contre, elle est maîtrisée et sur du long terme, je pense qu'elle sera
avec des bonnes vibes surtout.
Avec voilà, c'est vraiment un safe space, non? Parce que le monde, il est quand même très très dur et les gens, moi, j'ai pas quand ils nous écoutent. Je veux vraiment qu'ils oublient leurs problèmes, je veux qu'ils se sentent bien, je veux qu'ils voient que voilà, il y a de l'entraide. Enfin, c'est la vraie vie aussi, hein. Je pense qu'on a un biais de négativité qui fait qu'on montre beaucoup ce qui ne fonctionne pas et ce qui va pas dans le monde. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a quand même plein de choses qui sont bonnes. Et c'est ce que nous, on veut véhiculer dans nos histoires. Et c'est ce que le sport, c'est ça. Le sport t'aide à te sentir mieux physiquement, mentalement. Donc, on veut vraiment, voilà, c'est pareil dans une communauté de vélo, il y a plein de. Tu vois, il y a la personne qui va avoir son vélo cargo, qui va se foutre sur la gueule avec le mec qui va faire.
Il y a des antagonismes.
Faire,
bah
vois,
oui,
voilà.
Bien
donc
sûr.
Nous, on veut, voilà, on veut. Même, tu vois, sur le, on va convoquer là un responsable automobile, un syndicat de, enfin, tu vois, une association automobiliste pour écouter aussi qu'est-ce qu'ils ont à dire contre les vélos, parce qu'on va faire notre autocritique. Tu vois, on veut vraiment aussi se remettre en question dans nos médias par rapport à l'usage du vélo et CSR pour les amoureux de vélo et écouter, essayer que tout le monde vive
est-ce
bien ensemble.
Est-ce que le vélo électrique c'est triché? Il y en a des
voilà,
sujets.
Tu vois, voilà, mais on veut pas défendre des positions, ouais. Quoi. On veut vraiment être à l'écoute. Donc ça, c'est aussi un parti pris. Donc voilà, si on peut citer les trois autres. Et là, avec Paris 2024, évidemment, on essaye justement, voilà, de pouvoir, on est en levée de fonds, on essaye, voilà, pouvoir justement avoir un peu plus de moyens pour pouvoir être bien en ordre de bataille pour Paris 2024. Le golf, qui est un sport aussi, tu vois, qui est très, codifiés, où l'accès est compliqué, on voudrait y aller. Les sports de raquettes, il y a plein d'histoires hyper intéressantes à raconter autour des sports
alors
de tennis.
Alors, si tu fais un podcast sur le paddle, là, je peux te dire qu'ici, on a des
mordu, premiers... ça, c'est mordu.
Mordu, ça parle de paddle.
Ça parle de tous les sports de glisse et d'outdoor. Donc, d'accord. Tu peux avoir du paddle, du okay. surf, du snowboard.
Ah non, mais je pensais paddle, tu sais.
Ah,
parce que
le paddle de raquette.
Ouais, paddle de raquette.
Ah, d'accord, pardon.
Ça sera dans les sports de raquette.
Ouais, ça sera dans les sports de raquette. Ouais, donc, on aura, il y a plein de choses.
Et ils sont pas prêts de s'arrêter à Sunday Night Production. Vous avez compris, là, ils ont envie de bouffer le monde avec plein de super projets à venir. Paris 2024, on va suivre de près. Les amis, où est-ce qu'il faut suivre? Où est-ce qu'il faut aller? Sur Instagram, sur LinkedIn, on en a parlé. Est-ce qu'il y a un endroit, peut-être vous en perso, est-ce qu'il y a des
abonnez-vous.
Abonnez-vous, le pouce bleu.
Ah, si c'est perso, c'est LinkedIn, mais sinon, sur toutes nos plateformes, on est facilement joignable. On répond à tous les messages en privé, donc n'hésitez pas si vous avez des questions.
Voilà, sinon, voilà, dans la tête d'un coureur mordu, chaque marque a son écosystème. Vous tapez sur Google. Et nous trouver rapidement.
Merci à vous, merci les amis, merci pour votre temps, conversation passionnante, merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'à nous à Lyon, ça nous fait plaisir et puis on espère se revoir très bientôt.
Ça marche, à bientôt.
Merci,
à
salut, ciao, bye.